Journée d'actu avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Bonjour et bienvenue dans C'est d'actu. En octobre, à la Cité du Cirque, vous pourrez déjeuner au milieu de circassiens équestres, mais aussi participer à des stages et à des ateliers de pratiques diverses. Richard Fournier, directeur du Plongeoir, nous en parlera plus en détail. Bonjour Richard Fournier.
Bonjour.
On sera ensuite avec de jeunes créateurs du Mans, Piscouka et Adèle Edom. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous nous parlerez du dispositif Jeunes Créateurs et on terminera cette émission à la découverte d'un ancien marin reconverti en luthier qui a installé son atelier à Thorigné-sur-Douai. On commence sans plus tarder ce C'est d'actu et on parle de la programmation du Plongeoir dans un instant.
Radio Alpa, l'alternative.
Richard Fournier, vous êtes le directeur du Plongeoir, la cité du Cirque du Mans. Vous venez nous parler de la programmation d'octobre et notamment des ateliers qui auront lieu durant les vacances de la Toussaint, mais aussi des repas animés. Alors ces repas, appelés déjeuners circassiens, constitueront le fil rouge de cette saison 2024-2025. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Oui, tout à fait. Au Plongeoir, en tout cas, on travaille sur deux semestres avec sept actes artistiques qui vont comme ça se balader sur l'ensemble de la saison. Et pour faire le lien, on a décidé de faire cette année comme une sorte de carte blanche. En tout cas, c'est des projets qu'on aime bien inventer avec les artistes et avec le public. Et là, l'idée, c'était de proposer un concept assez simple, le repas, donc d'inviter des artistes de cirque et puis 150 spectateurs et spectatrices à venir sur la piste du chapiteau et à déjeuner sous une forme artistique avec les artistes et inventer comme ça sur les codes du repas des dimanches entre amis, entre familles, où on vient en tout cas dans un environnement assez agréable, découvrir une autre manière de rencontrer les artistes.
Alors le premier rendez-vous, c'est le 13 octobre au chapiteau. Qui seront les artistes invités ?
Alors c'est le second repas. On a fait un
premier
repas.
Pardon.
Ouais, tout à fait, mais c'est tout neuf, c'est tout neuf. Non, c'est le second repas et là c'est la compagnie Laouen. Donc c'est une compagnie qui est spécialisée dans le cirque équestre qu'on avait accueilli l'année passée sur le spectacle précédent en décembre. Et donc là, ils investissent le chapiteau à partir de ce jeudi. Ils arrivent jeudi soir, ils vont pouvoir travailler samedi toute la journée pour ensuite proposer une carte blanche ou en tout cas un concept assez atypique, c'est-à-dire proposer au public de manger avec les artistes de cirque, mais pas seulement avec les chevaux également avec lesquels travaille la compagnie.
Donc en fait, si je comprends bien, il y aura un numéro de voltige équestre au milieu des convives.
Alors c'est plus que ça. Là, l'idée, c'est de vraiment scénariser un repas avec les artistes. Donc l'idée, c'est que le cheval, les artistes, les spectateurs et spectatrices soient tous ensemble sur la piste. Et donc, on va, nous, avec le Plongeoir, être les servants, en tout cas, du repas. Et puis, les artistes vont pouvoir, scénariser ce repas avec, pendant qu'on va manger, on va pouvoir voir un petit peu ce que la compagnie va proposer pour cette carte blanche.
Scénariser, du coup, c'est-à-dire il y aura un récit, en fait ?
L'idée, en tout cas, c'est qu'ils disaient le concept du repas, c'est que les artistes aient toujours une journée ou une journée et demie pour préparer cette carte blanche. Donc, ils vont puiser dans, on va dire, leur répertoire de spectacles. Ils vont travailler sur un concept un peu particulier. Donc là, en effet, à chaque fois, c'est la surprise pour le public. Et chaque repas a à la fois les mêmes codes, à savoir 100 à 150 personnes assis à la table, servis à la table, mais à chaque fois avec une recréation d'une équipe artistique.
Ok. Alors normalement, quand on assiste à un spectacle, il y a d'un côté les spectateurs, de l'autre les artistes. Ici, du coup, il y aura une forme d'interaction entre les deux, c'est ça ?
Ouais, alors là, tout le monde sera sur la piste. On peut même dire que les chevaux seront autour des spectateurs et au cœur, on va dire, du public également sur ce dimanche.
D'accord, ça marche. Et comment vous est venue l'idée de ce dispositif donc, qui se répétera tous les mois ?
Alors, on aime bien, on Plongeoir, en tout cas, inventer des nouveaux concepts ou imaginer des rencontres différentes avec le public et proposer à chaque fois un concept particulier ou en tout cas une rencontre particulière avec l'œuvre et avec les artistes. On peut voir évidemment des spectacles tout au long de la saison, mais l'idée, c'est toujours d'aller travailler comme ça ces cartes blanches, de proposer en tout cas un inédit et surtout de travailler le souvenir et ce que ça va pouvoir produire dans les têtes des spectateurs et des spectatrices. Donc c'est toujours une expérience en tout cas qu'on va proposer.
Et c'est quoi l'objectif en fait d'une telle animation, de mélanger autant les spectateurs et les artistes en performance ?
L'objectif c'est de rencontrer l'œuvre et l'artiste d'une autre manière, c'est-à-dire pas uniquement en circulaire ou alors en frontal, mais de proposer une autre expérience aux spectateurs et aux spectatrices. C'est vraiment ça, cette envie, c'est de partager un vivre ensemble sur un moment où on va créer une sorte de parenthèse comme ça, public, artiste, mais également équipe et technicien du Plongeoir, où on va vivre ce moment-là qui sera unique, qui va se dérouler une seule fois avec ces artistes-là, qu'on ne pourra jamais plus retrouver. Mais c'est aussi ça, ce concept-là, c'est de créer aussi du souvenir évanescent. Et c'est ce qu'on... Voilà, on aime bien en tout cas fabriquer ces choses-là au Plongeoir avec des artistes avec lesquels on travaille très en confiance. On le fera également à l'occasion de la Nuit du Cirque au mois de novembre. On proposera un autre concept assez particulier, une balade au clair de lune.
Oh, ça marche. Et alors du coup, au niveau de la nourriture, chacun apporte son pique-nique ou est-ce que la nourriture sera proposée sur place?
Pas du tout. C'est un dimanche, vraiment un dimanche midi comme on l'imagine. C'est-à-dire qu'on vient vers midi, midi et demi au chapiteau du Plongeoir. Et on se laisse inviter, on s'assied à la table, on va commander si on veut un verre et ensuite on se laisse servir et desservir par l'équipe du Plongeoir. Donc non, on vient les mains dans les poches et avec son billet de spectacle évidemment. Mais non, on passe un moment comme au restaurant mais avec des artistes.
Okay. Et alors qu'est-ce qu'on pourra manger du coup?
Ah ça je peux pas vous le dire, c'est une surprise. Ouais, à chaque fois c'est la surprise, c'est un menu différent, des artistes différents et c'est aussi cette envie-là de créer la curiosité pour les spectateurs et spectatrices. C'est-à-dire qu'on en dévoile un petit peu, mais suffisamment pas assez pour donner envie de venir.
Ça marche. Alors, les vacances de la Toussaint approchent. Plusieurs animations pour le jeune public auront lieu. Des stages d'initiation, un jeu de piste. Est-ce qu'on peut en savoir plus?
Ouais, tout à fait. Alors déjà, pour le Plongeoir, les vacances scolaires sont autant de périodes pour justement découvrir le cirque à travers la pratique. Donc il y a des stages 8-13, 5-7, 3-5, en tout cas on peut venir découvrir le cirque sur quelques jours et le pratiquer notamment à la Cité du Cirque. Mais c'est également pour nous un temps où on travaille encore une fois la rencontre et la vie des lieux au Plongeoir. Donc du coup on peut sur les vacances scolaires à la fois venir faire des visites, en tout cas découvrir ces équipements-là avec une sorte de chasse au trésor qu'on propose en tout cas aux plus jeunes et à faire en famille. On propose également donc ces ateliers, mais également des ateliers swing, des initiations à la danse, etc. Donc c'est vraiment un moment de vie assez particulier sur les vacances où on arrive à recroiser d'autres expériences de cirque.
Et alors les stages d'initiation, du coup, c'est des stages de combien de temps et qu'est-ce qu'on est amené à faire?
Sur un stage d'initiation, en fait, c'est encadré par les équipes du Plongeoir et donc on va découvrir les arts du cirque, travailler à la fois la découverte d'agrès, du jonglage, de l'équilibre ou autre, mais également travailler autour de la confiance, autour de l'expression. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des stages de 3 à 5 jours et de...
D'accord.
Donner envie ou en tout cas essayer de découvrir cet art qui est assez particulier.
Alors on pourra aussi s'initier à de la danse, au swing, ouais. Plus spécialement, qu'est-ce que c'est le swing en fait?
Alors le swing c'est une forme de danse et donc on propose toutes les vacances scolaires, deux fois par vacances scolaires, des initiations au swing. Donc il y a plusieurs associations qui viennent prendre la piste du chapiteau, c'est libre, c'est ouvert à toutes et à tous et... On va danser ensemble comme ça pendant une heure et demie, deux heures, découvrir quelques pas de danse. Et l'idée, c'est de proposer comme ça des moments de retrouvailles autour du chapiteau.
Alors, on peut aussi rappeler que le Plongeoir, ce sont aussi des cours hebdomadaires et des stages le week-end, toute l'année. Qu'est-ce qu'on peut pratiquer comme discipline au Plongeoir?
Vous pouvez pratiquer à peu près toutes les disciplines. Parce qu'au Plongeoir, on enseigne le cirque à partir de 3 ans et on va jusqu'à 100, 103 ans pour les plus anciens. On travaille en EHPAD et en crèche notamment. Donc vous pouvez découvrir le jonglage de l'aérien avec le tissu, la corde, travailler autour du trampoline, travailler autour du mini-volant, les équilibres. Grosso modo, il n'y a qu'un grand volant qui n'est pas installé au Plongeoir. Hein, mais sinon... Vous pouvez, en tout cas, découvrir l'ensemble des disciplines liées aux arts du cirque.
Et du coup, c'est ouvert à tous les publics? C'est des cours qui sont intergénérationnels?
Ouais, tout à fait. On part des plus petits sur les cours hebdomadaires. On part des plus petits à 3-5 ans et on va aux plus anciens avec, on va dire, des plus de 60 ans sur des cours grands adultes. Et on adapte à chaque fois l'offre pédagogique aux différents âges, mais également aux différents apprentissages. Il y a toute une manière de découvrir les arts du cirque, mais également des parcours où on va pouvoir se spécialiser au fur et à mesure dans certains agrès, voir des spectacles, rencontrer des professionnels, etc. etc. Donc c'est à la fois un parcours de découverte, mais un réel aussi enseignement des arts du cirque avec une possibilité de se spécialiser.
Alors, toute l'année auront lieu des rencontres avec les artistes. Ce mois-ci, ce sera le 11 et le 30 octobre, avec la compagnie Bestia, la compagnie Yeto et Inbal Benheim. Je sais pas si
Benheim.
Benheim, pardon. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces compagnies?
Alors, vous les présentez, en tout cas, ce sont des compagnies qu'on accueille, nous, en résidence. Et on propose à chaque fin de résidence, donc ce sont des compagnies qui viennent travailler au Plongeoir, en général une semaine ou deux semaines. Et à l'issue de ces résidences-là, on propose en fait un rendez-vous avec les publics. Et l'idée, c'est de pouvoir présenter une étape de travail de la future création ou simplement faire une rencontre avec les publics. Donc, on va pouvoir traverser différentes situations, différents moments de création. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire qu'une compagnie qu'on va pouvoir découvrir sur un rendez-vous artistique, on va pouvoir la retrouver d'ici 2-3 ans peut-être sur une programmation du Plongeoir. Et donc là, clairement, on va pouvoir découvrir différentes compagnies en fonction de leur histoire. On peut avoir Bestia notamment ou Inbal Benheim qui sont des compagnies très ancrées, et puis d'autres compagnies qui vont être vraiment sur des premiers projets. Et là, pour vous dire, sur les trois, par exemple, Inbal travaille de manière assez étonnante l'aérien, la suspension. Son précédent spectacle avait été programmé notamment en corrélation Quinconce et le Plongeoir il y a 2 ans maintenant, et elle a toute une recherche autour du papier, de la suspension, de la corde. Et donc c'est faire découvrir aussi cet univers-là et faire découvrir ce qu'est une étape de travail, ce qu'est une résidence au grand public. C'est-à-dire que pour qu'on puisse voir un spectacle en saison ou sur le festival Le Mans fait son cirque, c'est 2, 3, 4 ou 5 ans même de travail en amont qui est réalisé par les artistes. Et ces rendez-vous-là permettent de découvrir en tout cas l'envers du décor et d'avoir un contact très privilégié avec les artistes.
Et donc c'est pour ça que c'est important, en fait, ces rencontres-là, c'est pour permettre au public de rentrer un peu dans les coulisses d'un numéro de cirque. Parce que c'est vrai que quand on est spectateur et qu'on voit un numéro de cirque, on se demande toujours, mais comment ils font ça? On se dit c'est pas possible, ils sont pas humains, etc., ce genre de choses. Et donc en fait ça permet de voir qu'il y a des étapes de travail pour ça, quoi.
Ouais, tout à fait, on appelle ça la fabrique chez nous, en tout cas c'est de découvrir les étapes de la fabrique d'un spectacle. Les artistes vont pouvoir à chaque moment de résidence peuvent faire récit d'où ils en sont dans une future création. Ça part à la fois de résidence à la table, hein, sur un début de projet, à des étapes de travail. Et souvent, les sorties de résidence ne correspondent pas spécialement au spectacle final parce que justement, ces étapes de chantier, ces rendez-vous artistiques vont permettre aux artistes de faire parfois des ajustements dans la création d'un spectacle, hein, et les retours publics sont toujours très intéressants.
Alors, qu'est-ce que le cirque apporte en termes d'interrogation? Est-ce que le cirque parle aussi de sujets qui nous touchent? Est-ce qu'il porte un regard sur l'actualité?
Alors, moi, évidemment, je travaille dans cette esthétique de cirque qui me passionne et qui nous passionne au Plongeoir. En tout cas, je pense que c'est un art et c'est une esthétique qui est clairement connectée à la société, qui s'empare à la fois des thématiques, des problématiques et qui va les réinterroger, les remettre en perspective. En tout cas, c'est un art qui est très très poreux à ce qui se passe au niveau sociétal. C'est également un art qui est assez, très poreux avec les autres esthétiques, avec la danse, la musique, parfois même les arts visuels. En tout cas, il y a cette possibilité des artistes de cirque de vraiment se mettre à l'écoute de la société. Et clairement, nous, on a deux temps forts comme ça que l'on travaille au Plongeoir, notamment sur le second semestre, hein, avec à la fois en février, Fais ce qu'il te plaît, qui est un temps fort qui était initialement basé sur le genre en question, les questions de genre, en tout cas qui venait creuser par le prisme artistique la représentation, la question du genre, ce qui nous lie, ce qui nous unit, etc. Donc ça, c'était une thématique qui est toujours d'actualité au Plongeoir. Et puis on a d'autres projets, notamment autour d'Ordage, qui est un festival pour tout petit et tout vieux, où on va reconnecter comme ça de l'intergénérationnel, on va aller jouer en crèche, en EHPAD, et on va mixer les publics. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses assez extraordinaires qui se passent autour de l'accompagnement, de la vieillesse, etc., mais également avec les plus petits. Donc oui, le cirque aime s'emparer de ces thématiques sociétales. Oui, le cirque est très connecté. Et même pour aller plus loin, le projet du Plongeoir est un projet sociétal, est un projet en prise avec le quartier et les habitants autour donc du chapiteau de la Cité du Cirque, mais également en prise avec les questions sociétales. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse au moins.
Est-ce que pour finir, vous pourriez nous rappeler les infos pratiques concernant le plongeoir ?
Concernant le plongeoir, les infos pratiques pour venir peut-être ou pour prendre un billet ou
oui,
juste
un site pour consulter les actualités.
Oui, tout à fait. Alors pour toutes les actualités, évidemment, les réseaux sociaux à chaque fois, Instagram, Facebook, etc. Le site web du plongeoir, donc leplongeoir-cirque.fr où vous allez retrouver toutes les actualités. Et puis sinon, le mieux peut-être, eh ben, c'est de passer au Café du Chapiteau qui est ouvert du lundi au samedi pour venir discuter avec l'équipe, venir vous renseigner, prendre des places de spectacle ou juste lire le journal et boire un café au chaud à l'abri de la pluie. Et c'est pas rien aujourd'hui.
Merci beaucoup Richard Fournier.
Merci à vous.
Vous êtes directeur du plongeoir La Cité du Cirque et merci pour être venu nous parler de la programmation d'octobre. À bientôt sur notre antenne.
À très vite.
On se retrouve dans quelques instants pour parler du dispositif Jeunes Créateurs du Mans après une brève pause musicale et on va écouter Band of Schools, Patterns.
Radio Alpa, l'alternative.
De retour sur notre antenne, vous êtes toujours dans C'est d'actu. Nous sommes avec de jeunes créateurs, de jeunes artistes du Mans, Peace, Kuka et Adèle Edom. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous êtes intégré dans le dispositif Jeunes Créateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce dispositif ?
Est-ce que tu veux commencer ?
Non, je te laisse l'honneur.
Écoutez, de mon côté, je ne sais pas grand-chose. Je vais avouer parce que je suis un peu arrivée comme un cheveu sur la soupe, on va dire, il n'y a même pas quelques mois. Pour le coup, c'était un peu de manière fortuite. Je cherchais un stage de fin d'études et donc je suis un peu rentrée au service jeunesse comme ça, sans savoir. Et en fait, j'ai fini par rentrer un peu dans ce dispositif comme ça. Tout ce que je sais du service jeunesse, c'est assez nouveau, même en tant que local, hein, pourtant. Mais c'est justement un dispositif qui permet d'aider les jeunes créateurs de différentes manières. Là, pour le coup, c'était surtout pour nous aider à exposer, donc soit des œuvres plus art visuel dans notre cas. Donc, il y avait des architectes dans notre exposition, il y avait des illustrateurs, surtout. Voilà, ce genre de choses.
D'accord. Donc, c'est un dispositif qui est en lien avec le service jeunesse, c'est ça ?
C'est ça.
OK. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qui vous a permis de faire comme action ? Vous parliez d'exposition. Est-ce qu'il y a d'autres manières où il vous a accompagné ?
Pour ma part, je suis arrivé dans le dispositif un peu de la même manière que ma camarade ici présente. J'étais pas prévu à la base. C'était un ami qui devait le faire, mais qui n'a pas pu, du coup, parce que ses œuvres n'étaient pas terminées, pas prêtes. Il se sentait pas de le faire. Et il a donc donné mes contacts à Emma Moger, qui n'est pas présente aujourd'hui,
oui.
Mais qui m'a donc intégré à ce dispositif. Et pour ma part, il a permis d'exposer, justement. C'est ce que m'a permis de faire le dispositif Jeune Créateur. Et j'ai pu bénéficier d'un accompagnement de la part d'Emma Moger, donc, dans tout le processus. Que ce soit au niveau de la confiance, parce que j'allais exposer avec des artistes accomplis, des artistes affirmés, des artistes qui ont fait des écoles d'art, ce qui n'est pas mon cas. Ou au niveau du matériel, au niveau des références, où aller, pourquoi, quand, où. C'est plus sur ce pan-là que j'ai été accompagné pour ma part.
D'accord.
Dans le cadre de ce dispositif.
Oui, donc Emma Moger, c'est votre coordinatrice qui effectivement n'a pas pu venir jusqu'à nous ce soir. Quel type d'artistes peuvent être concernés en fait par ce dispositif ?
En l'occurrence, ça peut être beaucoup d'artistes différents, d'après ce que j'ai pu constater. Pour le coup, pour les expositions, c'est assez dur de faire venir par exemple des artistes musicaux, même si on a eu du coup Calypso qui était venu au vernissage. C'était vraiment très sympathique, mais c'est vrai que pour les expositions, vu que c'est en général juste on donne juste des murs, des endroits, voilà. Donc c'est difficile de mettre des chanteurs là-dessus.
C'est plus facile de mettre des artistes qui produisent des œuvres qui restent, mais on est toujours dans une très grande diversité.
Oui.
On a eu des architectes, on a eu des gens qui étaient dans la verrerie, je ne sais pas si c'est le terme.
Oui, en fait, on avait justement Claire qui brise des verres et qui fait des œuvres un peu qui sont un peu similaires à du vitrail. Donc voilà, on avait aussi Solène qui faisait la linogravure. Et du coup, il y avait Alexandre Yangoula, il me semble.
C'est ça, qui était dans l'architecture, lui.
C'est ça, et il avait des maquettes, ce genre de choses. Donc au final, c'était assez divers.
Diversifié.
Ouais, okay, donc toutes les pratiques sont possibles, en fait.
C'est ça.
Tout à fait. Oui, oui.
Alors, est-ce qu'il y a quand même des conditions pour pouvoir en bénéficier de ce dispositif ?
Être jeune.
C'est ça.
C'est-à-dire, il y a une limite d'âge ?
Alors, je pense pas qu'il y ait une limite d'âge à proprement parler, mais du coup, c'est un peu dans le nom, jeune créateur. Et on le voit au profil qui était présent, qui ont exposé, du coup. On était dans une tranche d'âge, plutôt, je dirais, qui allait de quoi ?
Viens dans le micro, s'il te plaît.
Ah, pardon. Qui allait de 21 à...
Maximum 25,
oui, quelque chose comme ça.
D'accord. Ok. Et il n'y a pas d'autres conditions que la jeunesse, du coup, au sens large.
Au vu de la diversité des artistes, je pense pas.
Oui. Être artiste et être jeune, je pense que c'est tout ce qui est demandé.
Parce que vous mentionnez tout à l'heure des artistes qui avaient des brevets d'art, etc., qui avaient des vraies qualifications. C'est pas nécessaire pour pouvoir en disposer,
non,
en fait.
Justement, non, pas. La preuve en est, j'ai fait aucune école d'art. Et justement, c'était tout le propos quand je parlais de l'accompagnement au niveau de la confiance. Pour pouvoir exposer avec Emma Moger. Et pourtant, j'ai pu exposer mon travail au même titre que mes collègues et camarades, qui, pour certains, sortaient d'école d'art, pour certains, étaient en école d'art, pour d'autres, sortaient d'école d'architecture, bref, avaient des certifications reconnues, finalement, tout ce qui n'était pas mon cas.
Et je pense justement que ça pousse, c'est plus un coup de pouce pour les gens qui ne sont pas en école, qui n'ont pas vraiment... qui sont peut-être un peu sans repère, donc c'est vrai que ça peut être pratique là-dessus.
Alors, Kouka, et Adèle et Dom, est-ce que vous pouvez nous parler de vos pratiques respectives, du coup ?
Je te laisse commencer.
Eh bien, pour ma part, je fais du dessin papier à la base, et j'ai bifurqué vers le dessin numérique, du coup, pour des questions de coût, parce que le dessin papier demande différents matériaux pour différents rendus. On a les feutres alcool, les ceci qui peuvent assez vite représenter une belle somme. C'est pourquoi je me suis dirigé vers le dessin numérique, parce qu'avec une tablette numérique, on peut faire tout ça. Et pour pas cher, finalement.
Donc, enfin, la tablette numérique, ça coûte un peu cher quand même.
Mais... C'est vrai, mais c'est un achat une fois et c'est fini.
D'accord, c'est ça. C'est un investissement, en fait.
C'est un investissement, exactement, c'est le terme. Et du coup, j'ai commencé le dessin numérique pour ça, à la base, et puis j'ai plus quitté le dessin numérique. J'en ai fait pendant, je sais pas, je dirais 7 ans, à peu près. Et j'ai eu la volonté très récemment de revenir un peu au papier.
D'accord.
C'est pour ça que j'ai commencé le pastel.
Parce que tu en as fait pendant 7 ans. Au-delà de l'aspect financier, il y avait quelque chose dans le dessin numérique qui t'attirait particulièrement ?
C'est très différent parce que le dessin numérique permet de s'affranchir de tout un tas de contraintes qu'on a dans le papier finalement. En une commande, on efface un trait. Il disparaît. En une commande, on efface toute une partie du dessin, alors que sur le dessin papier, il faut la gomme, il faut frotter, faire attention à où est-ce qu'on frotte. Parce que du coup, si on frotte trop, on efface le trait, il faut le refaire. Et en fait, quand on repasse, il y a tout un tas de contraintes en fait, qui disparaissent complètement avec le dessin numérique. Un gain de temps énorme dans la création et surtout de nouvelles possibilités. Pour ma part, j'ai fait des œuvres très axées sur le trait.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai fait un portrait, par exemple, qui est composé à 90% de lignes droites uniquement. Une contrainte que je me suis imposée, finalement. J'ai fait une ville. Enfin, du coup, vous n'étiez pas là. Vous ne voyez peut-être pas les œuvres. Mais en gros, c'était la ville de New York faite, mais du coup, avec que des traits, que des polygones, que des formes. Et tracé à la règle, à la main, ça m'aurait pris quelque chose comme 7 ans. Et du coup, là, je pouvais le faire avec des commandes et recommencer aussitôt, sans avoir à gommer, sans avoir un truc. Du coup, je trouve que le dessin numérique facilite énormément le travail et permet d'ouvrir,
d'explorer. Ouais.
C'est ça, exactement. Permet d'ouvrir le champ du possible. Ce qui n'est pas non plus pas le cas pour le dessin papier, effectivement, mais c'est juste autre chose. Et justement, la preuve en est, je suis revenu un peu sur le papier avec le pastel parce qu'il y avait justement cette contrainte qui me manquait un peu. Cette contrainte qui pousse à la créativité d'une autre manière. Là où le dessin numérique est la liberté absolue, le dessin papier est la contrainte. Mais à la fois un excellent terreau pour la création.
Il y a quelque chose dans le dessin papier, il y a l'irrégularité qu'on ne va pas forcément trouver dans le dessin numérique.
En fait. L'imperfection, oui.
L'imperfection, tout à fait.
Mais c'est vrai que Manu Larsonnet, auteur de bande dessinée, a complètement renoncé, lui, au dessin papier pour passer complètement sur le dessin numérique.
Je le comprends.
Justement parce qu'il voyait des possibilités qui n'existaient pas dans le dessin papier.
Comment lui en vouloir ?
Oui, il y a aussi Arthur Depince qui est très connu pour avoir utilisé exclusivement Illustrator pour faire ses BD.
D'accord.
Et donc, un équivalent traditionnel sur papier d'Illustrator, c'est pas possible. C'est son outil de base.
Et alors Adèle et Dom, parlez-nous un peu de votre pratique à vous.
De mon côté, je fais beaucoup d'animation 2D, donc cinéma d'animation, de la bande dessinée, de l'illustration, à la fois numérique et aussi traditionnelle. Et voilà, tout ça, c'est pour raconter des histoires. J'écris beaucoup d'histoires avec mes propres personnages. J'ai aussi beaucoup d'œuvres, peu importe qu'elles soient audiovisuelles ou uniquement visuelles, qui sont en hommage à des univers que j'aime beaucoup. Donc ça peut être des livres, des films, des jeux vidéo, peu importe. Mais voilà, j'aime beaucoup dessiner ce que j'aime, un peu bêtement. Au final, ça, je pense que c'est ce que font beaucoup de gens. Voilà, c'est juste purement par passion que je dessine ce qui m'inspire. Et voilà.
Alors, vous avez pu participer à une exposition pour Forever Young en septembre. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu ?
Oui, bien sûr. Pour le coup, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je suis un peu arrivée comme ça. Je cherchais juste mon stage et puis au final, Emma m'a dit qu'elle était intéressée, qu'elle aimerait me voir exposer à l'espace Gambetta. J'ai tout de suite dit oui. À partir du moment où on expose, ça me permet déjà de rencontrer d'autres personnes et puis on se sent quand même un peu plus intégré. C'est vrai que de mon côté, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a un entourage vraiment ultra dans l'art. Donc au final, ça me permet de rencontrer des gens qui font aussi de l'illustration ou peu importe, toutes autres formes artistiques. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup participer à ce genre de choses. Et voilà.
Est-ce que vous avez trouvé un moyen d'exposer le côté animation de votre œuvre ?
Oui, alors pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que je ne pouvais pas faire ça avant dans d'autres expositions auxquelles j'avais fait part. Là, on m'a donné la chance d'avoir un projecteur sur lequel j'ai pu projeter un de mes courts-métrages d'animation que j'avais fait il y a 2 ans de ça. Donc bon, le dispositif était un peu... C'était un peu cheap, on avait juste pris un ordinateur portable, j'avais ramené ma clé USB avec le court-métrage dessus en fichier MP4, voilà, c'était un peu compliqué. Mais on a réussi à projeter ça sur le mur, en boucle, puis je trouve que ça a rajouté vraiment de la plus-value, parce que même si les illustrations c'est un pan de ce que je fais, c'est pas du tout représentatif de tout ce que je suis capable de faire en quelque sorte. Donc, voilà.
Est-ce qu'on dessine de la même manière d'ailleurs quand on fait simplement de l'illustration et quand on fait de l'animation ? Est-ce que c'est les mêmes gestes ?
Vers le début, sur la base, oui, dans le sens où voilà, on va faire des croquis dans les deux cas, on va essayer de créer la pose du personnage, etc. Mais dans tout ce qui est colorisation, et même au niveau de l'ancrage, par exemple, ça va être complètement différent, parce qu'il faut vraiment penser au fait que le dessin qu'on va faire là, en animation, on va devoir le refaire 10, 20, 50, 100 fois. Par exemple, je pense à un de mes personnages que j'ai dû dessiner peut-être, je sais pas, une centaine de milliers de fois au fil des années, parce que ça fait maintenant bientôt 10 ans que je fais ça. Donc,
c'est pas lassant un peu, même à force de dessiner toujours le même personnage ?
C'est ce que je me dis, mais au final, non, parce que j'y prends toujours plaisir. C'est-à-dire que forcément, quand je vais finir un court-métrage d'animation, je vais être un peu éreintée, parce que c'est vrai que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais au final, quand je m'arrête, je vais avoir ce petit temps où je fais une pause, mais dès que je vais avoir une autre idée qui va revenir, je vais tout de suite vouloir me remettre au travail, parce que c'est... En fait, l'animation, je trouve que c'est tellement... je trouve que c'est le meilleur médium pour moi pour... montrer ce que je veux faire. Je trouve ça tellement beau le fait d'avoir un dessin qui bouge. C'est bête, mais je trouve ça, c'est le meilleur moyen de donner de la vie à un personnage. Et justement, c'est ce que j'aime le plus dans l'illustration, c'est raconter l'histoire de personnages et d'un univers et vraiment le mettre en mouvement. Je trouve que ça le rend vraiment plus palpable, on va dire.
Alors, vous n'êtes que deux ce soir dans C'est d'Actu, mais le dispositif Jeune Créateur accompagne d'autres artistes. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns qui n'auraient pas pu se rendre aujourd'hui à Radio Alpa?
Alors tout à fait, donc on avait déjà, pour le cas, pour l'espace Gambetta, on avait du coup Solène qui faisait de la linogravure, Claire qui faisait donc du vitrail, non pas du vitrage, je ne refais pas, je vais pas refaire la même erreur, mais elle fait aussi, c'est vrai que j'ai pas oublié de le spécifier, mais elle fait des grandes illustrations à l'encre de Chine, de paysages très détaillés, qui sont vraiment très très jolis. Et donc on a Alexandre qui lui aussi fait un peu d'illustration, mais lui c'est un peu plus technique. Donc ça va plus être vraiment dans l'architecture, et donc il fait aussi des maquettes. Là il fait, d'après ce que j'ai compris, il fait vraiment plus ça dans le contexte de ses études à Paris, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, il est pas là, donc voilà. Mais voilà, et on avait aussi Calypso qui faisait du chant pour la soirée le jeudi à l'espace Gambetta.
Au total, nous étions 5,
6 en comptant Calypso.
C'est vrai.
Voilà.
Mais du coup, à exposer en continu, nous étions 5, donc on avait Vitrail.
Claire,
yes. Claire, donc, qui elle faisait, comme on l'a dit, du travail à l'encre de Chine. Elle avait de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu comprendre de nos échanges, elle a un rapport très particulier à la nature, puisqu'elle a grandi dans les campagnes sartoises. Et donc, du coup, elle représentait souvent des tableaux, du coup, de la nature, mais un peu. Une nature un peu abandonnée, j'ai l'impression, des restes de châteaux, des arbres. Je le vends très mal, mais croyez-le, c'est magnifique et c'est frappant au vu déjà de la taille de l'œuvre, au vu de la technique, parce que ce n'est que du noir sur du blanc, c'est assez brut. Et c'est un rendu assez beau à voir, au même titre que ce qu'elle fait avec le vert, qui est toujours en rapport avec la nature, vu que ce sont souvent des représentations de montagnes ou de fleurs. Pour ce qui est d'Alexandre, donc lui... Il avait présenté son travail de fin d'études, qui était donc une solution à l'enclavement du 18e arrondissement. Et c'est assez impressionnant, vu qu'en fait, c'est une superposition de plusieurs couches de carton qui reproduisent avec une précision étonnante le 18e arrondissement, et avec un ajout du coup, de sa part, qui proposait une solution pour notamment permettre aux deux côtés, vu que la ville est, enfin, cette partie-là de Paris, si je comprends bien, est séparée. Et donc, du coup, de se rejoindre pour éviter justement les bouchons dans les seuls axes disponibles pour le moment.
Et alors, ces expositions communes, c'est l'occasion pour vous de vous nourrir les uns les autres De vous inspirer entre vous.
C'est ça, et puis juste d'être en contact avec d'autres artistes. C'est, en fait, c'est vrai que c'est assez marrant, mais en fait, dans le cadre de cette exposition-là, Alexandre, du coup, a rencontré une de mes amies qui, pour le coup, n'est pas du tout dans l'art, mais qui, justement, fait aussi des études un peu dans l'urbanisme, etc. Et ils ont pu se retrouver un peu comme ça, parce qu'à la base, elle était venue me rendre visite. Donc ça donne un peu, même en dehors de juste notre petit cercle, ça permet aussi d'ouvrir plein d'autres possibilités à notre entourage. Enfin, en fait, ça permet aussi de... Ça crée un peu une sociabilisation autour de l'événement. Et puis, c'est juste... C'est un peu bateau, ce que je dis, mais c'est quand même, ça fait une expérience assez humaine, au final.
Et c'est tout à fait ça, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est une expérience humaine. La chose que je pense que j'ai le plus apprécié, c'est pas tant... d'avoir exposé, ce qui est en soi pour moi un réel accomplissement personnel, attention,
génial.
Mais c'est vraiment les échanges que j'ai pu avoir, les rencontres que j'ai pu faire, échanger avec d'autres gens dans le même domaine, échanger avec d'autres gens qui aiment les mêmes choses, mais qui font différentes choses. J'ai pu m'essayer un tout petit peu la linogravure et voir à quel point c'est intéressant, et pourquoi pas m'y mettre, et c'est vraiment enrichissant, je pense que c'est le mot, mais dans le sens pur, c'est enrichissant humainement, enfin... Oui, enrichissant.
Alors, suite à cet accompagnement par le dispositif Jeunes Créateurs de la Ville du Mans, est-ce que vous envisagez de vous professionnaliser dans votre pratique?
Ok, me professionnaliser dans ma pratique, au vu des études que je fais, ce n'est pas la première voie, finalement, vu que je suis actuellement en études de droit. Mais si jamais l'occasion se présente pour moi de faire mon travail artistique, mon gagne-pain, je vais faire une expression, pourquoi pas, je m'y refuserai pas, mais c'est pas
la priorité.
C'est pas la priorité pour l'heure, effectivement. Je suis un peu absorbé par mes études, mais si jamais l'occasion se présente dans ma vie à un moment, je ne dirai pas non, je pense.
Et Adèle et Dom, même réponse?
Pour le coup, oui, en fait, on est un peu dans la même phase de notre vie où on est un peu préoccupé par beaucoup de choses, mais c'est vrai que pour le coup, techniquement, je suis un peu déjà dans une espèce de période transitoire où c'est déjà un peu mon travail, c'est-à-dire que j'ai déjà eu des commandes, que ce soit d'illustration, etc., et potentiellement un clip musical bientôt commandé par un groupe local. Je ne peux pas encore dire qui c'est. Rien n'est encore. Okay. Le contrat n'est pas signé.
J'allais poser la question, mais.
Malheureusement, oui, j'aurais pas dû le dire. Mais voilà. Donc, oui, j'ai déjà, par exemple, un statut d'artiste qui a été fait, etc. Donc, je suis déjà un petit peu dedans, mais j'essaie pas de me donner trop de pression parce que j'ai un peu cette peur de peut-être perdre la passion, entre guillemets, si je ne fais que ça constamment. Puis il y a aussi les raisons de santé, parce que bon, j'ai développé des petites douleurs au poignet à un moment dans ma vie. Donc, j'ai pas envie non plus de. D'y perdre ma santé ou quoi, ou voilà. Donc j'essaie de pas donner une pression là-dessus, de me donner pression là-dessus, et puis
Et alors, sur quelle prochaine manifestation on pourra trouver les jeunes créateurs, du coup?
Alors
pour l'heure, je ne sais pas trop, parce que mon cycle de création est assez particulier. Je ne crée pas pendant très longtemps, et puis un jour ça me prend, et ça me brûle, du coup je crée, je ne fais que ça, au détriment d'autres choses de ma vie. Et pour l'heure, je suis dans ma phase où ça me prend pas trop.
Ok.
Du coup, une fois que je créerai, peut-être, je vous tiendrai au courant, pourquoi pas. Mais pour l'heure, j'ai pas de nouvelles heures, et donc je pense que j'ai pas non plus de date ou d'exposition à donner pour l'heure, hélas.
Adèle, il me semble par contre que vous avez quelque chose de prévu bientôt.
Alors, donc, c'est vrai que j'ai pas mal de choses prévues. Là, actuellement, j'expose au Centre Jacobin avec d'autres artistes. Là, c'est dans le cadre de l'association Undertaker. Avec laquelle je suis depuis 2022 déjà maintenant. Et du côté de mes projets personnels, je fais déjà toujours beaucoup d'illustrations, et j'aimerais potentiellement un jour, pas potentiellement, je sais que ça va être fait, mais je ne sais pas dans combien de temps, on va dire, dans l'échelle, mais j'aimerais pouvoir faire une suite pour ma bande dessinée que j'avais faite il y a très longtemps de ça. Elle avait déjà eu plusieurs suites sous forme de court-métrage, et là j'aimerais en faire encore une autre. Elle est déjà... Le scénario est déjà finalisé, mais...
Eh bien, merci Peace Kouka et Adèle Edom pour être venus nous parler du dispositif Jeunes Créateurs qui vous accompagne en tant que jeunes artistes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On va tout de suite passer à la dernière partie de cette émission et écouter l'interview d'un ancien marin reconverti en luthier qui a installé son atelier de luthier, donc à 30 minutes du Mans. Tout de suite, on écoute Thomas Cesalori.
Radio Alpa, l'alternative.
Bonjour Thomas Cesalori, vous avez été marin d'État pendant 20 ans et vous êtes reconverti au métier de luthier. Alors vous avez installé votre atelier à Torigné-sur-Nduée, à une demi-heure du Mans. Alors comment est-ce que vous expliquez cette brusque reconversion après 20 ans dans un métier qui n'a a priori rien à voir avec le monde de l'artisanat ou de la musique? Quelles sont les raisons en fait qui vous ont poussé à quitter ce métier de marin d'État?
Bonjour. Les raisons qui m'ont poussé à quitter le métier de marin d'État sont diverses. On arrive à un moment dans la vie où il faut choisir ce qu'on veut réellement pour la suite de son parcours. Et je me suis posé la question de ce que j'aimais faire au quotidien, ce qui me permettait de me lever le matin sans contrainte. Et plusieurs thèmes revenaient comme la musique, le travail du bois, la mécanique, le bricolage en général. Et en fait, le métier de luthier se trouve à la convergence de tous ces points. Et tout naturellement, je me suis dirigé vers cette profession.
Alors, est-ce que vous trouvez malgré tout quand même un lien entre votre ancien métier de marin et votre actuel métier de luthier ou pas du tout ?
Tout à fait. En fait, dans la marine, j'étais technicien en informatique et télécom. Et en fait, je reste technicien dans l'âme.
D'accord.
Les guitares, parce que je travaille sur les instruments à cordes pincées, plus généralement. Les guitares, c'est un objet hautement mécanique qui a besoin d'être entretenu, d'être réglé, d'être réparé souvent et ajusté à la main du musicien. Mmh. Et c'est par le regard technique qu'on arrive à avoir un résultat satisfaisant.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler juste ce que c'est qu'un marin d'État ? Enfin, qu'est-ce qui est spécifique à cette précision-là et en quoi consistait votre métier en fait avant ?
Le marin d'État, ça peut être plusieurs choses. Dans mon cas, c'est un militaire qui est payé par l'État, qui a un statut de marin. Et mon métier, comme je l'ai dit, c'était l'informatique et les télécoms sur les bâtiments de la Marine nationale. Gérer les transmissions, gérer les réseaux intérieurs, gérer les postes informatiques, parce qu'il y a énormément d'informatique à bord.
Alors, le choix du métier de luthier, c'est assez étonnant. Ce n'est pas un métier très courant aujourd'hui. C'est même un métier qui a failli disparaître. Est-ce que c'était effrayant pour vous de vous lancer dans cette entreprise ?
J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et j'ai pris plusieurs années pour me préparer. C'est effrayant parce qu'on quitte quelque chose qui est confortable pour la vie de tous les jours, où on ne se pose pas la question de savoir comment on va gagner son pain quotidien. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire le lendemain ? Le travail est prévu. Pour le coup, j'ai pris les devants, préparé ma reconversion, commencé par passer le CAP ébéniste, me préparer chez moi, présenter l'examen en candidat libre. Une année pour préparer le lancement de mon entreprise, approfondir mes connaissances sur le travail du bois, et aborder la lutherie en avance de phase avant ma rentrée à l'ITEM. Formation qui a duré un an. Et à l'issue de l'examen, j'ai lancé directement mon activité. J'étais prêt.
Et donc l'ITEM, ça, c'était au Mans, du coup, c'est ça ?
L'ITEM, oui. L'Institut Technique Européen des Métiers de la Musique se situe au Mans et créé depuis environ une trentaine d'années.
Et alors, vous, à la base, vous venez du sud de la France, c'est ça ?
C'est ça, je suis originaire d'Avignon et ensuite dans la marine, j'ai fait quasiment toute ma carrière à Toulon.
Et alors pourquoi vous avez décidé de venir jusqu'au Mans pour suivre cette formation-là ?
Avec ma compagne, on a eu l'occasion de s'installer au Mans, ce qui était évidemment le plus pratique pour suivre les cours à l'ITEM. Et puis on se plaît bien, donc on s'y est installé et puis on va y rester.
Alors, originellement, les luthiers s'occupent d'instruments comme le violon, l'alto, le violoncelle. Vous travaillez plutôt sur des guitares. Alors, pourquoi ça ?
Alors, la guitare, c'est affectif. Quand on est jeune, au collège et au lycée, avec une bande de copains, on se met à jouer des instruments, à faire du rock, parce qu'on aime bien ça. Donc, il fallait un bassiste à un moment. Eh ben, je m'y suis collé, j'ai commencé à apprendre à jouer de la basse. Et puis, ce sont des instruments, la guitare, la basse, le ukulélé, qui me plaisent bien et pour lesquels j'ai gardé un fort attachement.
Alors, vous vous assurez de la réparation et de l'entretien des guitares et des basses. Concrètement, ça se passe comment en fait?
Le client vient et avec une problématique. La première chose, c'est de regarder l'état général de l'instrument. Pour pouvoir faire une prise en charge et un devis par la suite, il faut prendre des mesures de tout ce qui compose cette mécanique. Pour les citer, la hauteur des cordes au niveau du sillet de tête, l'arc que forme le manche, les hauteurs des cordes au niveau de la 12e frette, le radius, la justesse, la hauteur des micros pour une électrique. Tout un tas de petites choses qui vont amener à un diagnostic et proposer les axes d'amélioration ou les réparations adéquates.
Ça marche. Et alors, est-ce que vous faites aussi de la restauration ou alors est-ce que c'est très différent de la réparation, ces deux termes-là?
Alors, c'est pas forcément très différent, mais ça demande quand même beaucoup plus de technicité. Dans la restauration, on se rapproche souvent des restaurateurs de mobilier d'art pour les instruments anciens. Ça demande de grandes connaissances organologiques pour remettre un instrument dans son état d'origine. C'est parfois très compliqué selon les vernis, la rareté des pièces, les essences de bois. Disons que quand on veut se lancer là-dedans, il faut beaucoup plus d'expérience et être sûr de soi. On ne peut pas abîmer un instrument, c'est impensable.
Et qu'est-ce que vous appelez connaissance organologique du coup?
L'organologie, en fait, c'est la science de l'instrument. C'est savoir comment il se compose, comment il est fabriqué, comment il fonctionne.
Alors, vous aimeriez vous atteler aussi à la création de guitares et de basses, donc la création cette fois. Quelle serait votre formule? Qu'est-ce qui ferait votre signature?
C'est un peu délicat. La fabrication d'instruments, la facture instrumentale, c'est le prolongement de l'entretien, réglage, réparation. Cela dit, c'est très personnel et ça demande un peu plus de compétences techniques sur le travail de la matière. Ce qui ferait ma signature, et c'est ce à quoi je réfléchis encore aujourd'hui, ce serait de travailler aux outils à main et de proposer des instruments fabriqués sans outils électriques. Avec des techniques anciennes. Alors, ça peut paraître un peu dichotomique pour des instruments électriques qui ont été conçus pendant l'ère industrielle. Cela dit, j'aime bien travailler la matière et être proche des pièces que je travaille et prendre le temps de fabriquer un instrument. Et
alors, dans votre présentation sur le site de votre atelier, vous présentez comme un mélomane plutôt qu'un musicien. Est-ce que ça veut dire que vous ne savez pas forcément jouer de guitare, mais du coup, si on ne sait pas jouer d'un instrument, comment est-ce qu'on peut en connaître le fonctionnement et la fabrication?
Alors, je joue d'instruments, je ne suis pas musicien, c'est un peu la nuance. J'aime bien jouer de la guitare, j'aime bien jouer de la basse, j'aime bien jouer du ukulélé. Cela dit, ça demande, pour faire de la musique, ça demande un grand investissement. En temps, ce qui n'est pas ma fibre en fait. Mon métier, c'est la technique.
Ouais.
Pour pouvoir faire cette technique, évidemment, je dois savoir jouer de ces instruments, savoir aborder leurs particularités et pouvoir les percevoir aussi. Sinon, on ne peut pas faire de bons réglages si on ne sait pas quoi entendre, on ne sait pas quoi jouer, on ne sait pas quoi analyser.
Alors, quelle est la plus-value du travail d'un artisan luthier par rapport à ce qu'on peut trouver en boutique spécialisée?
Alors, il faut dissocier la vente d'instruments neufs du fonctionnement de l'instrument. Quand un instrument arrive sur un étalage, il est réglé d'une certaine manière pour qu'il ne s'abîme pas pendant le transport. Il va être fabriqué en Chine, en Corée, il va parcourir des milliers de kilomètres. Va subir d'énormes variations hygrométriques, de température également. Et comme il est composé de bois et qu'il a des cordes de métal tendues sur le corps, tout ça va être amené à bouger. Et pour éviter les gros stigmates sur l'instrument, il va avoir un réglage moyen de base pour le préserver. derrière, chaque musicien est différent, chaque musicien va avoir sa sensibilité, sa manière de jouer, son appétence pour un style musical quelconque, et l'instrument a une capacité en termes de réglage pour s'approcher justement de ce qu'aime le musicien et de sa façon de jouer.
Ok, ça marche. Alors, comment est-ce que vous, en tant qu'artisan, vous êtes amené à participer à des marchés d'artisans? Et si oui, où est-ce qu'on peut vous trouver prochainement, par exemple?
Alors, pour l'instant, je me concentre sur mon atelier.
D'accord.
Je n'ai pas encore de...
Ok. Du coup, est-ce que vous pouvez nous donner vos infos pratiques, afin que l'on puisse se renseigner sur votre atelier et les services que vous proposez?
Vous pouvez me trouver sur l'apentiguitare.fr. apentiguitare.fr. Je suis au 48 chemin de Limbaudière à Torigné-sur-Dué. L'atelier est ouvert les lundis, mercredis, vendredis de 11h à 20h en continu et les mardis, jeudis et samedis sur rendez-vous.
Eh bien, merci beaucoup Thomas César Laurie d'être venu jusqu'à nous. Merci.
Merci à vous.
Radio Alpa, l'alternative.
Merci d'avoir écouté C'est d'Actu, c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur radioalpa.com. On se retrouve jeudi 10 octobre, on fera état de la précarité en France avec le Secours Populaire et on abordera le harcèlement scolaire avec une institutrice en hôpital, un formateur du programme phare, mais aussi avec le groupe Déjà qui crée une version plateau de leur pièce Tous les jours, un procès du harcèlement scolaire. A bientôt sur notre antenne.
Radio Alpa, l'alternative.